والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الشيخ أخوان الإسلام، إن شاء الله partir de ce lundi on va essayer de voir une rubrique, un thème un peu nouveau. Et ce thème, c'est la recherche des bonnes actions et des péchés. Étudier quelles sont les actions que le musulman doit mettre en pratique dans sa vie et quels sont les péchés qui parfois sont déjà incrustés dans notre vie et parfois on ne remarque même pas la présence de ces erreurs, de ces péchés dans nos vies parce que souvent ces péchés sont ce qu'on appelle des a'mal al-qulub. Et l'objectif de ce petit programme qu'on va essayer de faire, on pourrait l'appeler un genre de tazkiyah, un genre de self-correction. À travers ces quelques lectures de hadith et de versets du Coran, on peut essayer de déceler quelles sont les bonnes actions qui sont normalement dans la vie du musulman, mais qui font partie des actions du cœur et qui ne se trouvent pas dans notre vie. Et par opposition, est-ce qu'il y a des péchés qui font partie des péchés cachés, des péchés qui sont enfouis dans le cœur de l'homme et qui parfois peut être présents dans ma vie, dont je ne peux déceler la présence ? Alors que je me crois peut-être un homme très pieux, mais qu'il y a parfois des erreurs incrustées dans mon cœur. On donnerait comme exemple, hein, quand on parle d'actions visibles, il y a la salat, la zakat, le hajj, le ramadan. Et quand on parle d'actions a'mal ou le qulub, des actions du cœur, des actions qui sont cachées, que parfois on l'a, parfois on ne les a pas. Si on ne les a pas, c'est très grave. Et si on les a, alhamdulillah, on doit les travailler pour les développer. La crainte d'Allah, la confiance en Allah, la sincérité, l'humilité. Ça, c'est ce qu'on appelle les actions qui sont enfouies dans le cœur de l'homme. A'mal al-qulub. Maintenant, de la même manière, par opposition, on a des péchés qui sont visibles. L'adultère, le fait de voler, d'écouter la musique, etc. Ça, ce sont des péchés. Quand quelqu'un voit qu'il a accompli ce péché, ben, il sait qu'il a fait une erreur. Donc, il va essayer de demander pardon à Allah, de réparer la faute et d'arrêter de faire le péché. Mais parfois, il y a des péchés que l'homme accomplit inconsciemment. Il y a des choses qui sont enfouies dans notre cœur. Il y a la jalousie, il y a parfois l'ostentation, il y a le désir que les gens savent qui nous sommes, qu'est-ce qu'on a fait comme travail. Il y a l'orgueil, il y a la fierté, etc. Ça, ce sont des péchés. En général, l'être humain ne se rend pas compte qu'il y a ces défauts-là dans son cœur. Et même s'il s'en rend compte, il va les qualifier de défauts et pas de péchés. Et là, c'est extrêmement grave. Parce que ce sont des choses qui peuvent détruire les actions qu'on a fait avec nos mains. C'est un peu complexe, hein, on en rentre directement dans le sujet. Une personne qui a de la jalousie dans son cœur, hein, s'il ose appeler ça un défaut, alors que c'est un péché caché dans le cœur, il faut savoir que cette propre jalousie, hein, ce péché-là, peut détruire les actions que la personne fait avec ses mains. Car le prophète ﷺ dit bien dans le hadith que la jalousie détruit les péchés, tout comme le feu consume le bois. Et là, on fait une relation directe, on voit le degré de gravité. J'ai quelque chose qui est enfoui dans mon cœur qui s'appelle la jalousie. Quand quelqu'un a quelque chose que je n'ai pas, je suis envieux. J'aimerais avoir la même chose, quitte à parfois vouloir même que la personne perde cette faveur. Ça, c'est le pire degré de jalousie. J'ai ça dans mon cœur. Mais en contrepartie, je suis un bon moussalli. Je fais mes 5 namas, je suis régulier, je fais mon ramadan, je fais ma lecture du Coran, je suis un bon père de famille, je suis un bon voisin. J'ai toutes les qualités du musulman salih, de l'homme pieux. Mais à cause de ce défaut, mais qui n'est pas un défaut, à cause de ce péché qui fait partie des péchés cachés dans le cœur de l'homme, je ne me rends pas compte, mais je suis en train de détruire une vie de bonnes actions. Car le hadith utilise la métaphore la plus adéquate, la jalousie détruit les bonnes actions, tout comme le feu consume le bois. Donc, tous les lundis, on va essayer de voir soit une bonne action qu'on doit avoir dans notre cœur, soit un péché qui est parfois dans notre cœur, et comprendre quelle est son importance ou quelle est sa gravité, comment s'en débarrasser, ou alors si c'est une bonne action, comment essayer d'acquérir ces qualités. Alors la première action sur laquelle on va développer, hein, pendant 5 minutes, pas plus, c'est al-ittiba, l'obéissance envers Allah et son prophète. Parce que ça, c'est à la source de toute chose. D'accord ? Si dans mon cœur j'ai envie, j'ai la passion, je veux obéir à Allah et à mon prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ça veut bien dire qu'il y a iman. Si de mon cœur qu'on me présente des bonnes actions et qu'on me présente des péchés, je n'ai pas envie de faire les bonnes actions, mais je préfère m'orienter vers les péchés. Ça veut dire que dès le départ, hein, il n'y a pas le générateur, il n'y a pas l'énergie qui me propulse vers les actions. Et l'orientation que je donne à ma vie, hein, quand je vois à ma droite il y a une bonne action, et quand je vois à ma gauche il y a un péché, ben, qu'est-ce qui fait que je vais m'orienter à droite ou à gauche? Ça s'appelle al-ittiba. Je suis quoi? j'obéis quoi? Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, il explique que al-ittiba' huwa an yattabi'a ar-rajulu. La citation est assez longue, c'est que le musulman obéit tout ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté comme sunnah qu'il a dit, qu'il a mis en pratique, ainsi que ses compagnons, les pieux sahaba, ils ont mis en pratique. Et que cette personne fait passer l'ordre d'Allah et l'ordre de son prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam avant ce que son propre cœur lui dit, avant ce que ses instincts réclament. Et il y a dans le Coran trois catégories de ittiba', le musulman qui obéit à Allah, le musulman qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le musulman qui suit la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces trois catégories d'obéissance, ça c'est l'essence même de la vie du musulman. Lorsqu'Allah ta'ala dit le Coran, ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلِ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ. Là on retrouve le mot ittiba' dans ce verset, Allah ta'ala il explique que les gens qui n'ont pas la foi, hein, ils ont suivi ce qui est faux. Tandis que ceux qui ont la foi dans leur cœur, ils ont suivi la vérité qui a été envoyée par leur Seigneur. Donc, ittiba', c'est suivre la vérité, et dans l'autre sens, c'est s'égarer. Et on va voir que quand on ne suit pas le droit chemin, ben, qu'est-ce qu'on suit? Également, lorsque dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ » فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Hein, ça c'est la personne qui aime Allah. Qu'est-ce que cette personne doit faire? Elle doit faire le ittiba' du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui aime Allah, il doit absolument suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de prendre le chemin d'Allah, le fait de prendre le chemin, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la preuve qu'il y a iman dans mon cœur. Parce qu'une personne peut dire que j'aime Allah, je suis musulman, j'aime Allah. Mais si on regarde son mode de vie, tant de l'apparence physique, tant de ses pratiques, tant de ses comportements, ben on ne voit rien qui correspond au caractère du musulman. Ben ça veut dire que la personne ne fait que dire de sa propre bouche qu'il aime Allah. Si vraiment dans son cœur, on ne juge pas ce qu'il y a dans les cœurs, hein, ça c'est Allah seul qui sait. Mais si vraiment dans le cœur de cette personne, il y avait l'amour d'Allah et son prophète, mais cette personne aurait obéi à Allah et cette personne aurait obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le ittiba', le fait de se soumettre, le fait d'obéir aux ordres d'Allah et aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la preuve que la foi habite mon cœur. Maintenant, si une personne n'obéit pas à Allah et son prophète et en suivant la révélation et en mettant en pratique la sunnah, c'est pas compliqué, il y a deux cas de figure. Soit je suis le droit chemin, si ce n'est pas le cas, je vais suivre le mauvais chemin. Mais ce mauvais chemin, c'est un peu philosophique, hein, ce mauvais chemin, je ne vais pas le qualifier de mauvais. Je vais dire que je suis ce que je comprends de la vie. C'est-à-dire, si je n'obéis pas à Allah, soit je vais obéir à mes instincts, mes passions, comme on a dit le Coran, « Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu ». Il y a des gens qui ont pris leur passion, leur pulsion comme leur divinité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce que leur cœur a envie de faire, tout ce qu'ils ont envie de faire, ils le font. Ils voient une jolie fille, envie de draguer la fille, va draguer la fille. Ils voient quelque chose que entre les gens, ils mangent d'un restaurant, ou pouligrine, dans le chemin, il a envie de manger, halal ou pas halal, il va l'acheter, il va le manger. Il veut telle chose, il a besoin de l'acheter une voiture, il trouve une personne qui fait un emprunt, etc. Il ne va pas regarder licite ou illicite, la personne va le prendre. Ça, c'est quelqu'un qui suit ce que son cœur lui dit. Il a envie de faire quelque chose, il ne mettra pas la crainte d'Allah, ni le respect de la charia devant lui. C'est-à-dire que ça, c'est une preuve qu'il n'y a pas réellement de iman dans son cœur. Donc, premier cas de figure. Deuxième cas de figure, soit la personne suit les traditions. Mais ça, de notre époque, ça n'existe plus. À l'époque, c'était le gros problème. Les gens, ils ne voulaient pas obéir le prophète parce qu'ils préféraient obéir leurs ancêtres. « Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alayhi aba'ana. » Dit non, nous on va suivre le mode de vie de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres. Ils ont toujours adoré ces statues, ben on adorera toujours ces statues. Que je comprenne pas pourquoi, je fais que suivre l'héritage de mes parents, de mes grands-parents. Mais ce cas de figure-là, alhamdoulilah, le jour n'existe plus. Le troisième cas de figure, hein, qui touche la génération Facebook, MSN, Internet et haute technologie, c'est ceux qui croient qu'ils suivent leur intelligence. Ceux qui croient qu'ils suivent, hein, ils ont un esprit qu'on appelle rationnel. Moi, je réfléchis, je cogite et je suis ce que mon esprit me dit. Hein, je vois ce qui est cohérent et je suis ce qui est cohérent. Ben, cette personne-là, à travers son discours, elle est en train de prouver que le premier sifa du musulman n'est pas encore présent dans son cœur. Parce que la première qualité du musulman, comme on l'a déjà expliqué, c'est croire en l'invisible. الذين يؤمنون بالغيب. Je n'ai pas vu Allah, je n'ai pas vu son prophète, je n'ai pas vu le Coran révélé, mais je crois en Allah, je crois en son prophète, je crois au livre qu'Allah a révélé il y a 1500 années. Et je m'y accroche parce que c'est ça mon iman. Et celui qui dit que moi je crois ce que je vois, uniquement ce que je vois, ce que je peux entendre, ce que je peux toucher, ben cette personne, elle se dira peut-être musulman, mais face au wahi, face à la révélation, son comportement sera différent. Donc si je ne suis pas l'ordre d'Allah et son prophète, assurément, je vais suivre soit mes passions ou soit mon intelligence, mais en fait mon intelligence et la passion, ce sera de synonymes. Parce que j'ai l'impression de suivre ce que je vois de vrai, mais en fait je fais ce que mon cœur me dit. Et ces personnes qui ne suivent pas l'ordre d'Allah et son prophète, ils sont dans la perdition. Il y a un très bel exemple dans un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam avait expliqué aux sahaba que, il a donné un exemple, que moi, prophète d'Allah, par rapport à vous, c'est-à-dire par rapport à la Ummah d'une manière générale, je suis comme ce sentinelle. Un sentinelle, c'est quoi? C'est dans l'armée, il y a le campement qui est dans un endroit, et il y a une personne qui surveille sur un mont élevé pour voir s'il n'y a pas des ennemis qui arrivent. Je suis comme un sentinelle qui guette l'horizon et qui veille s'il n'y a pas un ennemi qui vient, qui va attaquer la caserne, qui va attaquer les villageois, la population. Et je suis comme ce sentinelle qui revient vers vous et dit « Ya qawmi inni ra'aytul jaysha bi'aynayya » Dit « Oh mon peuple, j'ai vu l'armée qui arrive de mes propres yeux. Wa inni anan nadirul uryan » C'est comme ce sentinelle, c'était la tradition chez les Arabes, le sentinelle pour montrer qu'il y a urgence, il enlevait son... le haut, comme si on veut dire le kafni ou le t-shirt, je ne sais pas comment on dit, il secouait comme ça de loin. Au moins, les gens, ils voient ce signe, ils comprenaient qu'il y a danger immédiat, il faut lever le camp. Il a dit, je suis comme cette personne, anan nadir al-uryan, cette personne qui vous met en garde, an-najat, fuyez, faites attention. Il a dit, et parmi ces villageois, parmi cette population, fa'ata'ahu ta'ifatun min qawmihi, il y a une partie de cette population qui écoute le message et qui suit les recommandations. Il lève l'angle immédiatement parce qu'il croit avec conviction ce que cette personne dit qu'il a vu. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui disent que c'est n'importe quoi. On est bien là. Ça c'est moi qui retraduis le hadith. Hein. On est bien, il n'y a pas de problème. Il y a un petit vent frais, il fait bon, l'abri, il ne fait pas chaud. Là, on est bien où on est. Et ces gens-là, ils croient ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Et quelques instants après, il y a l'ennemi qui arrive, qui les terrasse et qui va en finir avec ces personnes. Le prophète me dit que وَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ. Ceux qui ont été sauvés, ce sont ceux qui ont écouté mon message et qui l'ont mis en pratique. Et ceux qui sont restés, qui ont été détruits, ce sont ceux qui n'ont pas voulu écouter le message que j'ai apporté. Et là, on voit bien l'exemple de ces gens, hein, qui, il y a quelqu'un qui les met en garde contre quelque chose qu'ils n'ont pas vu, qui n'ont pas entendu, et eux, ils croient que ce qu'ils voient, et donc ils ne tiennent pas compte de la mise en garde. C'est une métaphore qui est vraiment adéquate, c'est l'exemple le plus adéquat que le prophète a pu donner pour montrer quel est son rôle. Et dans un hadith, le prophète dit bien que jamais quelqu'un n'aura la foi tant que son cœur, tant que son cœur n'ira pas vers ma sunna. C'est-à-dire que quand on sent que de notre cœur, on a l'envie d'obéir à Allah et l'envie permanente d'obéir, de mettre en pratique la sunna du prophète, ça veut dire que là, le iman est rentré dans mon cœur réellement. Maintenant, si je me contente de ma salat, de quelques pratiques, certes ce sont des piliers de l'islam, mais que intérieurement je n'ai pas d'attachement pour l'ordre d'Allah, je n'ai pas d'attachement pour la sunna du prophète, je suis musulman certes, mais ça veut dire que la foi n'est pas encore réellement entrée dans mon cœur. Bon, il y avait pas mal de hadiths à citer sur l'obéissance à Allah et son prophète, pour qu'on comprenne bien que quand on dit ittiba, suivre l'ordre d'Allah, c'est un chemin qui est droit. Lorsque le prophète avait fait des dessins pour les sahabas sur la terre, le prophète avait fait un trait droit et puis différents traits. Le prophète a dit que ce trait qui est tout droit, ça c'est le chemin qui mène vers Allah. Hadihi subul. On pourrait dire ça, c'est le sirat al-mustaqim, c'est le chemin qui mène vers l'obéissance d'Allah. Et tous les traits qui vont dans tous les sens, ça ce sont différents chemins, et à travers ces chemins, il y a... Pour chacun de ces chemins, il y a un shaitan qui invite les hommes. C'est-à-dire que l'objectif de shaitan, c'est que le musulman quitte le droit chemin. Et le droit chemin, c'est représenté par le livre d'Allah, par l'obéissance envers Allah Azza wa Jal et la mise en pratique des habitudes de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui, dans sa vie, il se fixe comme objectif d'obéir, de se soumettre devant Allah Azza wa Jal, le prophète alayhi salatu wasallam dit un hadith, là aussi, tous les hadiths sont merveilleux, il dit que toutes les personnes de ma communauté entreront au paradis, sauf ceux qui refusent, illa man aba. Là, il dit au prophète d'Allah, comment est-ce possible qu'un musulman refuse d'entrer au paradis? Le prophète dit, vous tous, vous allez entrer au paradis, c'est-à-dire toute ma ummah, sauf ceux qui disent, non, on ne veut pas entrer au paradis. Ça veut dire au prophète d'Allah, y a-t-il un musulman qui refuse d'entrer au paradis? Et le prophète a dit que man ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba. Là on revoit le ittiba', celui qui m'obéit, il accédera au paradis, il entrera au paradis, et celui qui refuse de m'obéir, ben il n'accédera pas au paradis. Maintenant nous d'analyser notre mode de vie, est-ce qu'on a envie de suivre le prophète? Est-ce qu'on a envie de suivre l'ordre d'Allah? Ou alors lorsqu'on nous présente l'ordre d'Allah, on nous présente les interdits, on se dit que oui, mais de nos jours, il faut s'adapter, de nos jours, c'est plus pareil. Quand on dit que telle transaction est illicite, tu dis oui, mais il faut s'adapter, il faut comprendre le contexte. Là, on voit bien que c'est quoi notre orientation, c'est quoi notre ittiba. On va conclure en citant un hadith pour montrer comment les sahaba, ils mettaient en pratique, mais absolument tout ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, demandait. Et pour cela, il n'essayait pas de comprendre est-ce que c'est cohérent ou ce n'est pas cohérent. S'ils voient que ce n'est pas cohérent, ils comprennent bien que c'est eux qui ne comprennent pas. C'est pour ça que Ali ibn Abi Talib disait que si cette religion fonctionnait par la logique, alors sachez que le massa sur les chaussettes de cuir, on appelle le moza, ou en arabe les khoufain, le massa, le fait de passer la main pour nettoyer sa chaussette de cuir, ben on l'aurait fait dessous et pas dessus. Vous connaissez le massa, quand quelqu'un est en voyage ou dans un pays où il fait froid, on n'est pas obligé de se laver les pieds. On peut mettre des chaussettes de cuir qui sont imperméables. Mais au lieu de se laver le pied, on passe une main mouillée sur la chaussette. La logique, ce serait de nettoyer le dessous, parce que c'est le dessous du pied qui touche le sol, qui est donc sale. Mais l'islam me dit que non, le nettoyage doit se faire au-dessus, c'est-à-dire au niveau du pied, de la cheville jusqu'aux orteils. Mais ça c'est... Apparemment, ça allait contraire à la logique. Mais Ali ibn Abi Talib dit bien que si la logique, c'était le madhab, de la manière de pratiquer de l'islam, alors on aurait nettoyé des chaussettes dessous. Et regardez, on finira ce hadith. Le prophète, au début, il avait une bague en or. Et lorsque les sahaba, ils ont vu que le prophète avait une bague en or, tout le monde s'est mis à porter une bague en or. Tous les sahaba. Et à un moment donné, le prophète a abandonné ça. Et il a dit que « إِنِّ اتَّخَذْتُ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ وَقَالَ إِنِّي لَنْ أَلْبِسَهُ أَبَدًا » Un moment donné, ça m'a retiré, dit qu'au début j'ai porté ça, maintenant jamais plus je vais le porter. « فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِمًا » Tous les sahabas, ils ont tiré la bague de leurs doigts, ils ont jeté immédiatement. Ça c'est « ittiba ». Ce que le prophète fait, on le fait immédiatement, parce que notre prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le meilleur des hommes. Et tout ce qu'il fait, ça vient de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères, qu'Allah nous donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Et regardez, exemple, un homme d'une grande intelligence comme Omar ibn Khattab. On présente Omar comme étant un des hommes les plus intelligents de l'histoire de l'humanité. Dans certaines sources, il même dit que, des auteurs chrétiens, ils disent que si Omar faisait partie de la religion catholique, les gens auraient adoré Omar. Tellement c'était quelqu'un, si un jour on a la possibilité d'étudier la vie de Omar, ce qu'il a apporté à la politique, la gestion du monde musulman, c'est quelque chose d'énorme. Très peu de dirigeants de nos jours auraient pu faire ce que Omar a fait à son époque. Malgré son intelligence, Omar mettait en pratique, je ne dis pas aveuglement, mais avec la conviction que ce que le prophète a fait, ça c'est le droit chemin, que je comprenne ou non. Un exemple, lorsque Omar faisait le tawaf, arrivé à la pierre noire, il disait à la pierre noire, « Inni a'lamu annaka hajarun, la taburru wa la tanfa'. » Je sais que tu n'es qu'une pierre, tu ne peux rien faire, tu es un être donc inanimé. Si je n'avais pas vu le prophète t'embrasser, jamais je ne t'aurais embrassé. C'est-à-dire que ça paraît incohérent d'embrasser une pierre, mais si le prophète l'a fait, alors moi, Omar ibn al-Khattab, je le mets en pratique. Taïb, également, enfin, subhanallah, il y a tellement d'exemples pour faire comprendre comment les sahaba, ils mettaient en pratique à la lettre les ordres d'Allah et de son prophète, mais c'est ça la preuve de l'iman. Qu'Allah nous donne cette qualité, mes chers frères, que dans notre cœur même, on a l'amour d'Allah, l'amour de son prophète, et que notre cœur nous pousse vers l'obéissance d'Allah. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, alhamdulillahi rabbil alameen, zakir wa khair.